gré des océans et des côtes, la Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau.
Ils sont devenus un critère de choix, une arme de sélection. Les labels sont l'estampille qu'il faut avoir. Qu'ils soient pavillon bleu ou port propre, pour les plus connus, les labels économico-touristiques ont le vent en poupe. Ils font partie intégrante du paysage maritime. Aujourd'hui, lorsque l'on part en vacances, fait de la plongée, sort ou accoste son bateau, notre regard se tourne souvent vers cette exigence, le label. Même si l'on s'en défend et que l'on reconnaît que ce n'est pas toujours la garantie absolue de ce qui nous est vendu. Il n'empêche que la bataille fait rage dans les communes et autres ports pour décrocher le fameux sésame, quitte parfois à enfreindre les règles de la loyauté. Je suis toujours Sébastien Chauveau. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Grande Bleue, consacré au label maritime. On constate que les labels touristico-environnementaux sont nombreux en France. Il y en a de toutes les sortes. Il y a ceux qui sont décernés par les stations vertes. Il y a les prix de fleurissement. Il y a les distinctions qui représentent des actions ou des marques. C'est le cas de Vacances Propres, par exemple. L'importance des labels est variable. Quant à leur notoriété et ce qu'ils représentent au public, aux consommateurs et aux touristes qui fréquentent notre pays, Thomas Joly, conseiller du président de TerAgir, association qui gère plusieurs programmes d'action de développement durable, dont le pavillon bleu, pensent qu'ils répondent globalement à des attentes, mais qu'il ne faudrait pas que leur multiplicité soit un facteur de confusion dans l'esprit de tous. Il est vrai que le paysage touristique français en est truffé. Beaucoup ont une connotation environnementale. Quelques-uns ont une volonté plus sociale, comme les labels qui mettent en avant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Vous l'avez compris, certains labels sont spécifiques. D'autres prennent en considération plusieurs critères. C'est le cas de ceux qui nous intéressent ici, les labels maritimes. Pour ne citer qu'eux, Port Propre est une certification destinée aux professionnels. Elle honore les ports de plaisance, notamment leur propreté et leur action d'élimination des déchets. Cette certification est encouragée par les régions qui octroient aux ports des aides financières. Les aficionados du label considèrent cette distinction comme une première marche d'accès au pavillon bleu. Le pavillon bleu, justement, classe, lui, les stations balnéaires sur de nombreux critères. C'est le plus ancien des labels. C'est aussi le premier écolabel à avoir vu le jour en Europe, peut-être même dans le monde. Depuis, le concept a largement été repris. Le pavillon bleu est né en 1985, au moment où les lois de décentralisation commençaient à prendre leur essor. En clair, au moment où les régions devenaient autonomes. Le pavillon ne distinguait à sa naissance que des communes littorales françaises. Il en estampille à présent dans 11 pays de la communauté européenne. Même le Luxembourg a le pavillon bleu, alors que le pays ne compte pas un kilomètre de côte. Ailleurs, dans le monde, notamment en Afrique du Sud et au Maroc, l'attrait pour le label a également fait son chemin. Plusieurs pays hors du vieux continent ont, eux aussi, aspiré au désir du développement touristique respectueux de l'environnement. C'est ainsi qu'une distinction comme celle du pavillon bleu honore aujourd'hui des communes littorales dans plus de 50 pays. Il pourrait bien en être de même pour les ports de plaisance. Il se dit que la distinction port propre pourrait à son tour sortir des frontières françaises et se déployer à l'international. Le but du pavillon était, au départ, de remettre aux élus qui faisaient mieux que la moyenne en matière de protection du littoral une récompense, rappelle Thomas Joly. Mais très vite, le pavillon a été détourné de son premier intérêt. Les élus en ont fait un outil de promotion de leur commune. C'est le cas de cette station balnéaire de la côte atlantique, Saint-Brévin, qui arbore le totem sur au moins deux de ses plages depuis 1997. Cette récompense devait être une émulation des bonnes pratiques. Il n'a jamais été question qu'elle soit un argument touristique, répète le conseiller du président de TerAgir. Le pavillon bleu est le label le plus couru car il est généraliste et reflète tous les efforts entrepris par les communes pour le bien, le confort et la santé des touristes. Ce sont globalement ces deux labels, Port Propre et Pavillon Bleu, qui dominent le milieu maritime. Mais c'est surtout vers le Pavillon Bleu que se portent les attentions des estivants. Pour beaucoup, c'est le premier choix, notamment pour les étrangers, qui sont très friands de ce genre de distinction, dit le conseiller. Il faut le reconnaître, les labels sont une information précieuse pour les vacanciers et autres plaisanciers. Ils leur apportent des réponses aux questions qu'ils se posent en matière d'environnement, d'animation, de qualité des eaux, d'accessibilité, etc. Pourquoi les communes littorales courent autant après les labels ? C'est évidemment pour doper le tourisme et ce qu'il engendre, particulièrement sur l'économie des territoires. Selon Dorothée Pacot, adjointe à la mairie de Saint-Brévin, en charge de l'environnement et des plages, il est difficile de chiffrer ce qu'apporte un label. Mais l'élu de laisser poindre que de ne pas l'avoir est un manque. L'appât du gain et de l'image ne sont pas les seules motivations des édiles à pousser leurs communes sur le devant de la scène. Les labels ont d'autres conséquences. Ils sont, entre autres, facteurs d'éducation. C'est le cas avec le tri sélectif et les opérations de nettoyage des plages. Ils sont également synonymes d'information. Nombreuses sont les stations balnéaires qui proposent des activités autour du développement durable. Dans celle du Grand Ouest, par exemple, on balade les touristes sur les plages et les dunes pour leur apprendre la faune et la flore marine. Les labels sont un guide généraliste pour les élus, les directeurs de port et leurs équipes pour tracer une sorte de fil rouge autour de la gestion communale ou portuaire aux questions d'environnement, souligne Thomas Joly. C'est l'occasion pour tous de se fédérer dans l'optique d'obtenir cette distinction, donc de mettre les gens à l'ouvrage pour prétendre au fameux sésame, ajoute le conseiller de Terragir. On peut dire que les labels sont un moteur pour les équipes, qu'ils sont une occasion de se tenir en éveil pour rester en haut de l'échelle. Ils nous obligent à faire toujours mieux, confie l'adjointe brévinoise. Les distinctions sont aussi pour les communes littorales le moyen d'organiser un tourisme vertueux. Il faut l'avouer, même si celles qui n'y prétendent pas le contestent, les destinations qui arborent un totem à connotation environnementale attirent un public qui est en attente d'une certaine qualité. Cela génère des gens qui sont, eux aussi, respectueux de la nature et de leur environnement. Sous-entendez qu'ils se comportent normalement mieux que les autres. En clair, être labellisé est en quelque sorte un espoir de relative tranquillité. C'est une manière indirecte de choisir sa clientèle. Ce que tempère Dorothée Pacot, qui veut croire que si sa station n'était pas labellisée, elle attirerait autant les touristes en été. Les labels ne se répercutent pas qu'en été. Beaucoup d'entre eux obligent à une attention de tous les instants. En plus des actions d'éducation au développement durable à destination des touristes, des institutions comme le Pavillon Bleu demandent que cette sensibilisation soit effectuée aux populations permanentes. On peut ainsi dire que les territoires qui sont labellisés regroupent une population aux connaissances environnementales plus élevées que ceux qui ne le sont pas. Mais n'est pas récompensé de ses efforts qui veut. Obtenir un label peut être long. Ce fut le cas pour Saint-Brévin, il nous a fallu 8 ans, rappelle l'élu. C'est aussi compliqué et contraignant d'être labellisé. Il faut satisfaire aux exigences, bien sûr, remplir de nombreux dossiers, recevoir des visites, attendre des passages en commission. Certaines villes se voient retoquées. Quant à celles qui sont récompensées, elles doivent rester sur leur garde. Elles peuvent à tout instant perdre leur label. C'est une démarche volontaire des candidats d'obtenir une distinction maritime. Il n'y a pas ici de visite surprise, comme ce peut être le cas des référentiels gastronomiques, explique le conseiller de Terragir. Sur le terrain, les prétendants au titre de plage ou de port propre doivent prouver leur détermination à entrer ou à rester dans le quota du développement durable. C'est le plus difficile, avoue Dorothée Pacot. Surtout dans des territoires comme le nôtre, où il y a des grandes étendues et beaucoup de monde à surveiller. Comme on l'a évoqué, la veille ou l'obtention d'un label comme Port Propre ou le Pavillon Bleu se traduit par des actions d'éducation et de sensibilisation, mais elle est aussi le résultat du respect des critères généraux d'environnement, à l'instar de la gestion des espaces naturels sensibles notamment. La sécurité et la sérénité ne sont pas non plus oubliées dans les exigences des candidats au label. Dans la commune littorale de Loire-Atlantique, on a mis en place des médiateurs de plage. Ils sont là pour surveiller, mais également pour rappeler aux bonnes pratiques. Idem pour la propreté. Elle ne vise pas que les plages et les ports. Elle concerne l'ensemble des sites des stations balnéaires. Ces dernières doivent proposer un tri sélectif, aussi bien sur le front de mer que dans les terres. Les déchets doivent être collectés de manière séparée en au moins 3 flux de déchets afin qu'ils puissent être valorisés. L'urbanisme est aussi un pan souvent incontournable de l'obtention à une distinction maritime. C'est, entre autres, des diverses mises aux normes que dépend la possibilité à une commune littorale de proposer à ses baigneurs une eau de qualité. Cela passe par la gestion des eaux usées. Pour ce qui nous occupe, nous demandons que les équipements d'épuration fonctionnent mieux que la moyenne nationale pour avoir des rejets les plus propres possibles dans le milieu naturel, souligne Thomas Joly. C'est le hic des stations balnéaires. C'est souvent là qu'elles pêchent. Saint-Brévin a mis des années à faire labelliser l'une de ses plages. La station balnéaire de la Baule, non loin de là, connaît les mêmes problèmes. Elle n'est pas labellisée, en partie à cause de cette raison. C'est une surveillance de tous les instants. Les eaux de baignade des stations labellisées sont suivies de près. Pour certaines, elles sont analysées et comparées sur plusieurs années. Être labellisé est-il obligatoirement signe de qualité ? On pourrait croire que oui. En réalité, être distingué montre surtout une volonté des communes à être toujours en haut de l'échelle. Cela ne veut pas dire que celles qui ne le sont pas n'y sont pas. Reprenons l'exemple de la station bolloise, à quelques kilomètres de celle de Saint-Brévin. Elle n'est pas labellisée. Et pourtant, avec sa plage urbaine et ses 80 000 personnes par jour au plus fort moment de la saison estivale, elle est l'une des communes balnéaires de premier rang en France. Ce qui ne donne pas le droit à l'erreur, insiste Philippe Gervaux, adjoint à la mairie de la ville. Pour l'essentiel des critères demandés par les labels, ils sont imposés par les lois et règlements nationaux et européens. C'est le cas pour le tri sélectif et pour une partie des obligations d'urbanisme. Autrement dit, choisir pour ses vacances un site non labellisé ne signifie pas des eaux saumâtres, des rues en coupe-gorge ou en dépotoir. Loin de là. Il y a un vrai engouement en France et ailleurs pour les communes littorales labellisées. Pour certaines, se voir retirer leur pavillon serait vécu comme un drame. Pour les équipes communales et portuaires des villes distinguées, le totem est un outil managérial des services impliqués dans le maintien ou l'obtention de ces distinctions. C'est aussi vécu par leurs habitants comme un appel à une prise de conscience de la santé et de l'environnement. Ce sont des données qui sont de plus en plus présentes dans les comportements de nos concitoyens, fait remarquer le conseiller de Terragir. À la Baule, on ne se soucie guère de ce genre de reconnaissance. La station n'a jamais eu le pavillon bleu. Cela ne l'inquiète pas. Elle fait le plein chaque été. Il faut dire qu'avant d'être un lieu, la Baule est un nom qui n'a pas besoin d'être estampillé pour être convoité. Pour autant, la commune n'exclut pas de se lancer dans la chasse au label. Bien qu'elle vende son excellence, elle devra avant, comme beaucoup d'autres communes balnéaires qui disent ne pas vouloir plutôt que ne pas pouvoir être labellisées, résoudre quelques imperfections urbanistiques. N'allez pas croire que les labels sont acquis à vie. Avant même que les institutions procèdent aux vérifications d'usage, une fois par an au moins, il y a quelquefois une sorte de course à la dénonciation des mauvais élèves entre les communes. Certains y voient une émulation. D'autres parlent de concurrence plus ou moins féroce. Le tourisme est bien un business qu'il vaut mieux avoir chez soi que chez son voisin. Il arrive que les labels soient suspendus. Cela ne veut pas dire que la station balnéaire, hier labellisée, n'est plus fréquentable aujourd'hui. Ces manquements temporaires aux critères sont souvent dus à un aléa climatique. Cela arrive après de fortes précipitations. Ces stations perdent, dans ce cas, le label pour la durée de l'événement. Elles le retrouvent sitôt que tout rentre dans l'ordre. Entendez que les annonces dramatiques de plages polluées l'été doivent inciter à se renseigner plutôt qu'à boycotter, surtout si le site est d'ordinaire dûment labellisé. Notez que les labels maritimes sont une demande des communes, pas une distinction de ces dernières. On demande à être labellisé, on honore les frais qui en découlent, on est estampillé si on répond aux critères fixés. Les labels maritimes ne sont pas des récompenses. Ils ne sacrent pas une commune. Quoique les organismes s'en défendent, les distinctions peuvent parfois prêter à interrogation. Des communes se voient suspendre leur label, tandis que d'autres le maintiennent, alors que les conditions ne sont pas davantage remplies d'un côté comme de l'autre. Les plaintes des usagers des plages ne sont d'ailleurs pas rares envers les stations balnéaires estampillées. Elles sont quelquefois justifiées. Elles sont aussi régulièrement le fait de méconnaissance au nom de la prétendue protection de l'environnement. Certains voudraient voir des plages sans plantes et sans algues, alors que ces végétaux marins sont indispensables à l'équilibre floral. Citons les laisses de mer qui doivent faire partie du paysage des plages. Trop de labels pourraient finir par tuer les labels. Trop de considération à ce que nous voyons, respirons, sentons, mangeons pourrait nuire à notre protection. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de La Grande Bleue.
Au gré des océans et des côtes, la Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chevaux.